Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot, Roselyne Bachelot.
Bonjour à tous, c'est Roselyne Bachelot pour 100% Bachelot. On va parler logement et je suis avec un type qui sait plus trop où il habite. C'est Rémi Barré.
Sympa.
Qui enquille sa troisième heure de micro.
Oui, c'est vrai. J'habite plus. Limite, mon logement, c'est RMC.
Oui, ton logement, c'est RMC. De temps en temps, tu vas chez toi pour.
Oui, je passe.
Juste. Pour relever les compteurs. Ouais. Et oui, mes sujets sérieux, parce que les Français ont du mal à se loger. Ils sont aussi mécontents de leur logement. 73% des Français ont du mal à trouver un logement. Ça monte évidemment beaucoup plus haut en région parisienne. Ça atteint 86%. Ils sont exaspérés parce que quand ils trouvent un logement, les loyers sont de plus en plus chers. Pas étonnant quand on connaît le prix de l'immobilier qui a été multiplié par 2 depuis 2000. Les logements sont parfois en mauvais état. Et puis, il y a toute une population qui ne trouve pas à se loger parce que, évidemment, on demande de plus en plus de garanties. Quand on est jeune, salarié ou quand on est chômeur, ça devient quasiment impossible. Et les résultats sont là, les chiffres sont là. La Fondation Abbé Pierre, tu te souviens, on avait reçu les membres de cette fondation, estiment à 3,5 millions le nombre de Français qui sont mal logés. Et pendant ce temps-là, la France est le pays qui consacre le plus d'argent public à ses politiques du logement, ses aides au logement, près de 50 milliards d'euros. Alors allez comprendre ce qui se passe, vous allez nous raconter vos difficultés, mais aussi proposer des solutions au 32-16.
L'accessoire printemps-été 2017 chez les agents immobiliers, le panneau vendu.
Le marché s'emballe au premier trimestre dans les grandes villes.
Oh merde!
Parce que le marché est devenu un peu taré.
Oh non 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 non.
Et le marché a perdu un peu la boule l'an dernier avec l'incroyable baisse des taux.
Ceinturé 21 et tous les réseaux confirment le dynamisme du marché avec comme conséquence des prix qui remontent.
Et oui, ça va très très vite.
Alors, il y a des endroits où ça monte beaucoup.
Plus 5% à Paris, Nantes ou Bordeaux notamment.
On n'est pas sorti de la berge, hein.
En tout cas, c'est la première année de hausse depuis 2011, donc c'est un véritable événement.
3, 2, 1, 0.
Et oui, vous rencontrez des difficultés de logement, vous nous les racontez au 32-16, vous nous les racontez aussi sur Twitter, Bachelot_RMC, et bien sûr sur rmc.fr. Et je suis heureuse de recevoir notre premier invité, Christopher Gonsalves, directeur d'une agence Orpi à Reims. Bonjour Christopher Gonsalves.
Bonjour Mme Bachelot, merci de me recevoir. Bonjour
Mais vous allez nous dire ce qui se passe. Bon. Moi, j'ai rappelé les chiffres. On consacre 50 milliards d'argent public, dont 17 milliards directement pour les aides au logement, ce qu'on appelle l'APL. On aide la construction neuve, on aide la rénovation, on donne des allocations aux étudiants. Et avec ça, les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays ?
La seule dépense ne suffit pas. Faut-il encore que cette dépense soit équilibrée et faite en fonction des besoins. Donc, et on en revient toujours au même problème. En fait, c'est la compréhension justement des besoins, qu'on soit acheteur, locataire, bailleur. C'est qu'il faut aujourd'hui redistribuer justement cet argent-là de manière beaucoup plus efficace, en tenant compte des contraintes de chacun, des attentes, et en rééquilibrant peut-être le rapport locataire-bailleur, surtout la partie locative et puis encourager.
C'est-à-dire rééquilibrer locataire-bailleur. Parce que je prends un exemple très simple. On a, il y a quelques années, donné une allocation logement aux étudiants. Est-ce que ça a fluidifié le marché du logement étudiant ? Au contraire, ça l'a durci. Parce que qu'est-ce que ça a fait ? Ça n'a pas aidé les gens qui louent, qui sont locataires, mais ça a augmenté le prix des locations étudiantes. Donc finalement, le fric, il est allé dans la poche des propriétaires, il n'est pas allé dans la poche des étudiants.
Alors, l'argent, en tout cas les aides pour les étudiants sont nécessaires. C'est quelque chose qui va au-delà de la problématique de logement. Ces aides-là ont été distribuées à juste titre. Maintenant, je pense que c'est pas ça qui a eu un impact direct sur l'augmentation des loyers, puisqu'il faut regarder de manière beaucoup plus large. Et aujourd'hui, l'augmentation des loyers est plus liée effectivement déjà au marché qui le justifie, par rapport à une offre qui est pas assez abondante. Donc forcément, quand on a un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est un impact direct sur les loyers. Et puis après, la fiscalité aussi qui a un impact sur la fixation des loyers sur le marché et les attentes.
Bon, Christopher, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Mon Rémi, est-ce que tu as au 32-16 quelqu'un qui pourrait nous dire ce qu'il ressent devant cette insatisfaction généralisée?
On a Nicolas qui nous appelle au 32-16 depuis le Val d'Oise, et si je me trompe pas, c'est un confrère, Christopher, puisque Nicolas est également directeur d'agence immobilière. Je me trompe pas?
Oui, exactement.
Bonjour Nicolas, directeur d'agence immobilière. Alors, Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce mécontentement monte à la fois quantitatif et qualitatif sur les difficultés à trouver une location, puis une fois qu'on l'a trouvée, à considérer à juste titre qu'elle est trop chère ou que le logement est en mauvais état?
Alors, en fait, il y a un gros problème qui s'est déclenché suite à la loi Houllier, c'est qu'en fait, maintenant, les propriétaires se protègent en souscrivant à des assurances de loyer impayés. Mmh. Et ça impose donc aux futurs locataires, donc quand on a un F2, par exemple dans mon coin, moi je suis dans le 95, qui sous entre 800 et 900 euros, à gagner trois fois le montant du loyer.
Ah ouais, vous rendez compte quand le salaire moyen est le salaire médian est à plus de 1000 euros en dessous, quoi.
Moi, je vous donne un exemple. J'ai une amie, enfin un copain, parce que je fais du sport, qui donc sa fille vient d'être embauchée, elle est fonctionnaire, donc elle gagne 2000 euros par mois, elle commence un job. Impossible de trouver un logement. Lui, il veut se porter garant, mais étant donné que les bailleurs se protègent avec ce système, eh bien, il n'y a pas de garant. Donc en fait, elle peut pas trouver de F2. Donc bon, moi j'ai réussi à lui trouver quelque chose parce que le propriétaire ne souscrit pas à cette assurance. Et voilà, mais les jeunes sont vraiment dans la panade. C'est vraiment très compliqué.
Si je vous comprends bien, Nicolas, ce que vous sous-entendez, c'est qu'il y a eu toutes sortes de législations qui, en voulant protéger les locataires, sont arrivées à l'effet inverse. Oui, c'est-à-dire que, en voulant protéger les locataires, on a mis les propriétaires en difficulté, ils ont allumé des contre-feux et tout ça se retourne contre ceux qui veulent louer.
Eh ben c'est ça. Voilà, exactement. On se retrouve sur un marché qui est complètement fou. On a des jeunes qui veulent arriver dans la vie active pour louer un appartement. 900 euros à F2.
Ah bah non, c'est pas possible, évidemment.
Bah oui, mais c'est les prix et ils ne peuvent pas louer avec ce système de garantie de loyer impayé. Ça protège c'est des garde-fous parce que c'est vrai que ça a énormément évolué depuis 15 ans. Les gens sont moins soigneux, donc les propriétaires, c'est normal qui se protègent parce qu'il y a des gens qui payent pas et puis une expulsion ça peut mettre un an et demi.
Racontez-nous ça, Nicolas, justement. Vous dites une phrase qui m'interpelle là. Les gens sont de moins en moins soigneux. C'est-à-dire que vous avez des trucs que vous retrouvez dévastés?
Il y a 15 ans, alors ça a toujours existé, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on retrouve des appartements dans des états, c'est de la folie, quoi.
Je fais réagir Christopher Gonsalves, qui est comme vous, agent immobilier, Orpi à Reims. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu dans votre profession, le mauvais état dans lequel on rend les logements?
Oui, alors bonjour Nicolas. Ce que décrit Nicolas, c'est une réalité. Alors maintenant, en fait, tout à l'heure, je parlais d'équilibre, justement, et précisément entre bailleurs et locataires. Il est évident qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut redonner de la garantie aux bailleurs pour qu'il offre plus facilement une confiance aux locataires, puisque aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que 90% des contrats signés sont des CDD. Alors que les critères d'éligibilité qui sont encore présents dans les garanties de loyer impayé, comme le cite à juste titre Nicolas, sont axés sur les contrats de travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que la priorité, ça reste le CDI. Alors qu'aujourd'hui, le CDI représente une...
Donc la réglementation n'est plus adaptée à l'état du marché.
En fait, aujourd'hui, il faut, entre les CDD, l'intérim, ceux qui changent de travail régulièrement, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie mobilité géographique aussi dans le travail.
Tout ça ne va pas aller en diminuant.
Ça va se fluidifier. Et pour se fluidifier, il faut que l'État intervienne, soit effectivement en garantissant, en intervenant la garantie des loyers auprès des bailleurs, soit sous forme d'autres aides. Mais là, actuellement, c'est équilibré. Ça oppose ce que décrit Nicolas. Aujourd'hui, ça oppose un peu locataire et bailleur.
Parce que c'est pas disons les choses clairement. À l'heure actuelle, que ce soit Christopher ou Nicolas, vous m'interrompez si je suis pas dans le vrai. Si je dis des bêtises. Mais clairement, aujourd'hui, allez, je vais caricaturer. Hein, mais les propriétaires qui louent n'ont quasiment aucun droit. Et tous les droits sont aux locataires.
Exactement.
S'il y a un problème, on est d'accord.
Exactement.
Je caricature. Non, mais
oui.
Je caricature, mais, oui, mais
c'est vrai.
Donc les propriétaires ont peur de louer, donc ils demandent des exigences, de trois fois le salaire, etc.
Hein.
Mais parce qu'ils ont. Enfin voilà, parce
alors,
que
les incidents. On va réagir, Nicolas, sur
Il faut penser qu'il y a des gens qui n'ont pas que des fortunes, hein, qui vont investir pour leur petite retraite dans un F2 ou dans un F3 pour.
Oui, pour améliorer leurs revenus.
Tous les bailleurs ne sont pas forcément des riches, mais.
Ces gens-là, ils se retrouvent avec un locataire qui paye plus, c'est une catastrophe. Hein. Il faut prendre des avocats, ça va mettre un an et demi, deux ans.
Vous rencontrez aussi ce type de propriétaire, le retraité ou le pré-retraité qui veut se garantir des revenus, et c'est une catastrophe pour lui d'avoir un locataire indélicat.
Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'image du locataire qui a des difficultés financières et l'image du bailleur qui a lui de gros moyens. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, puisque aujourd'hui on rencontre aussi souvent des propriétaires qui ont des vrais problèmes d'argent, parce que ce sont des gens qui ont eu recours aussi à l'emprunt pour acquérir des biens locatifs, et quand le loyer ne tombe pas, croyez-moi, la banque a plus de pouvoir pour récupérer ses traites que le propriétaire pour récupérer ses loyers, et c'est de là déjà le premier déséquilibre. En fait, on est resté sur un contexte juridique où on met d'un côté le bailleur avec de gros moyens, donc il peut se permettre effectivement de récupérer son logement au bout de un an et demi, deux ans d'impayé, alors qu'aujourd'hui la plupart des propriétaires n'ont plus les moyens d'attendre aussi longtemps. Ça les met dans une situation très compliquée. Alors par contre, j'oppose d'un côté, c'est pas les bailleurs ont toutes les contraintes et locataires, parce que d'autre côté, il faut aussi comprendre la problématique des locataires, celle de se loger au juste prix et dans des conditions convenables. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment rééquilibrer afin que d'un côté le bailleur il puisse mesurer plus aisément ses risques, et de l'autre côté le locataire puisse accéder plus facilement au logement. Donc
à trouver. Merci Nicolas de nous avoir appelé au 32-16.
Ben, de rien.
On vous souhaite
beaucoup.
Le meilleur. Et on a...
Juste à titre informatif, en 2015, donc c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, 168 775 procédures judiciaires ont été entamées par des bailleurs à l'égard de leurs locataires. Et il y a eu 14 400 expulsions en France, ça a bondi de 25%. Et là, la trêve hivernale, elle prend fin vendredi, si je ne me trompe
pas. C'est ça.
Voilà. Claude nous appelle au 32-16. Claude, il habite en Haute-Loire.
En Haute-Loire. Bonjour Claude.
Bonjour Roselyne.
Alors ça va bien Claude ?
Ça va, impeccable.
Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette crise du logement ? Il faut bien l'appeler comme cela.
Ben oui, bon, disons que c'est lamentable, quoi. Quand on voit le prix des loyers dans les grandes villes, bon, moi je vois que j'ai mon fils qui est sur Marseille.
Oui.
Il a un travail, hein, il a un CDI. Il louait un appartement chez une personne. Bon, il avait un loyer de 650 € par mois. Il avait droit aux allocations logement.
Oui.
Ensuite, sous mes parents, on a réalisé un appartement. Donc, il est allé sous l'appartement chez mes parents. Il paye un loyer à mes parents qui est de 600 €. Et là, il n'a plus droit aux allocations logement.
Ah oui, c'est ça, oui. Oui, on n'a pas le droit quand on est...
Famille,
c'est pour ça. Oui, c'est de la famille.
Ah ben ouais, mais c'est
vrai, c'est injuste. Non, mais vous avez raison. Claude.
C'est injuste parce que bon, mon père, le loyer qu'il perçoit, il le déclare aux impôts.
Oui. Alors, Christopher, là, il pointe le doigt sur quelque chose d'assez incroyable, Claude.
Bah, exactement. Bonjour, Claude.
Bonjour.
Alors, et c'est vrai ce que décrit Claude est la réalité. Alors, je vais prendre un exemple pour bien montrer qu'il y a quelque chose de très contradictoire, en fait, dans le droit aujourd'hui fiscal, puisque ce monsieur qui va loger son enfant va pas avoir le droit aux aides. Par contre, s'il met à disposition le logement à son enfant gratuitement, il sera imposé sur des revenus locatifs fictifs. Vous voyez, ça c'est quelque chose, par exemple, qui s'oppose réellement.
Là aussi, il y a des trucs fictifs. Il y a pas des emplois fictifs, il y a des revenus fictifs. Bon, bah d'accord.
Par contre, il paye réellement. Par contre,
il paye réellement.
C'est-à-dire que si le grand-père, parce que c'est ça, hein, il est chez son grand-père et donc ses grands-parents.
Oui,
voilà. Si ses grands-parents mettaient le logement à disposition de leur petit-fils gratuitement, ils seraient redevables en fait de l'impôt.
Non, mais c'est incroyable, la cette histoire. Logement, hein,
alors qu'ils ont parlé aux aides. Donc oui, il y a là encore une fois, ça fait partie des exemples qui sont assez.
C'est vraiment les incongruités de la République. Et il gagne combien votre petit? Vous me dites si je pose une question indiscrète, vous me le dites.
Ah ben il est au SMIC quoi. Il a mis quelques euros par mois quoi. Voilà. Donc
ça fait quasiment la moitié.
Ça fait 60%
de 100 euros par mois plus bon.
Bien sûr.
Les frais qui
les charges
autour,
et tout,
quoi.
Oui, d'accord.
Les charges, l'assurance de la voiture,
la taxe d'habitation,
taxe d'habitation. Moi, je trouve que c'était lamentable.
Ouais,
voilà.
Là, il y a un vrai problème.
Après, c'est vrai que moi, des fois, il me vient l'idée de dire d'avoir envie de dire à mon père, le loyer, tu le déclares plus. Voilà, du moment que.
Oui, il a droit à aucune aide.
Pourquoi toi tu vas être en plus taxé encore plus?
Ça se comprend, même si ça, je peux pas vous pousser dans cette extrémité, mais... Claude, ici au micro de RMC.
Il peut loger gracieusement,
S'il le loge gracieusement, en fait, il va quand même payer un impôt sur le loyer qu'il aurait dû lui faire payer.
Tout va bien.
Ouais, il peut même pas, Claude.
Merci Claude.
Merci et bonne journée.
Je vous embrasse.
Sébastien nous appelle au 3216. Il nous appelle depuis les Hauts-de-Seine.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Rosine, vous allez bien?
Mais je vais bien et vous?
Très bien.
Avec ce soleil.
Effectivement.
Alors dites-moi Sébastien, vous-même.
Alors moi, je tenais à réagir parce qu'en fait j'ai eu deux situations professionnelles totalement opposées et c'est vrai que la différence m'a un peu choqué. En fait moi j'ai été militaire pendant 10 ans avec un salaire, on va dire, plutôt moyen, même assez faible. Bon, donc j'étais dans les 1003-1004. Et c'est vrai que j'étais en région Bretagne, j'arrivais à louer une maison à 750-800 euros sans justificatif, juste en montrant la carte militaire.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est une situation qui est, on va dire, agréable à chacun de gérer après son budget. Et après reconversion, je suis retourné sur la région parisienne, je suis maintenant cadre en assurance. Et ça m'a fait halluciner parce que pour trouver un appartement de moins de 40 mètres carrés, quelque chose qui coûtait dans les 710 à Alfortville, donc qui n'était pas trop cher, on me demandait, alors déjà à la moitié du temps illégal, parce que souvent on demande 4 à 5 mois de loyer de côté, et en fait c'est garant, sauf qu'aujourd'hui je suis à 3004 et on me demande encore un garant quoi.
Donc là vous êtes tombé sur un cas, non, quand même. 5 fois le loyer, il est en CDI, il gagne. Et on lui demande un garant alors qu'il est en CDI, qu'il gagne 3004 par mois.
Mais c'est hallucinant. Donc au final,
excusez-moi, pour être précis, Sébastien, c'était un particulier ou c'était une agence?
C'était un particulier. Ouais. Et ce qui m'a fait, alors là où je me dis, bon, le système est bancal, c'est au final, j'avais besoin de l'appart urgemment, donc je me suis débrouillé. Fort heureusement, j'ai des parents qui gagnaient bien leur vie, donc ils sont portés garants. Mais quand on
Vous avez 36 ans, c'est ça?
Ah non, j'ai 30 ans. Ah non,
30 ans, pardon, 30 ans. À 30 ans, il est en CDI.
On est obligé de demander la garantie
garants.
De ses parents,
papa,
alors qu'on est en CDI, qu'on gagne 3400 francs, 300 euros. Ben voilà, faut que je grandisse.
C'est hallucinant. Et puis surtout, moi, mon père, on l'a pas dit au moment du dossier, mais moi, mon père est tombé à la retraite 4 mois après. Donc au final, il n'avait plus du tout le même revenu.
Il était
porté garant sans avoir la capacité financière derrière. Donc le système, il tient pas debout. Leur logique ne tient pas debout. Il y a quelque chose qui est pas logique.
Il y a quand même, Christopher Gonsalves, vous êtes à Reims. Il y a quand même là, avec Sébastien, un problème spécifique à la région parisienne quand même. Là.
Alors, spécifique à la région parisienne, mais aussi partout en France. Puisque le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, Sébastien était militaire. Donc ça veut dire que dans l'esprit des gens, un militaire, c'est plutôt garantie de revenus.
Oui, mais
voilà.
ça va être notre destin pendant toute notre vie, changer de boulot, de bouger.
Exactement. C'est à juste titre, vous le dites, madame. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut absolument que le système s'adapte à ça. Alors moi, je pense qu'il faut renforcer les garanties du propriétaire quand il loue un logement. Ça évitera que il en demande trop. Là, on a affaire en fait à un bailleur qui se couvre, qui se.
Oui, c'est ça. Voilà, ceinture et bretelles. Ouais.
Exactement. Donc qu'on offre plus de garanties à ce bailleur-là pour que qu'il s'engage plus facilement. Et de l'autre côté, si on offre des garanties, dans ces cas-là, qu'on lui fixe aussi des obligations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des garanties, la possibilité, elle réside peut-être dans le fait de à quel moment on n'a plus le droit de refuser. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a le refus de vente qui existe en France. Demain,
il peut y avoir le refus de louer.
Exactement.
RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot. RMC jusqu'à 16h.
Votre budget, c'est combien?
Zéro.
Un budget zéro, par les temps qui courent, on va pas trouver grand-chose, hein.
100% Bachelot.
Ah si. Ah si, j'ai quelque chose.
Roselyne Bachelot.
Allez, suivez-moi, on y va.
Ça devient vraiment la galère de se loger, vous nous l'avez dit au 32-16. En voulant protéger les locataires, on crée la pénurie. En voulant combattre les hausses de loyers, on dirige le parc locatif vers des logements de mauvaise qualité. Les aides au logement, on fait augmenter les loyers parfois. On a fait le constat, le diagnostic. Maintenant, il faut trouver des remèdes à cela. Et je suis très heureuse de recevoir Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers. On est très content de vous avoir à nouveau avec nous, Henri Buzicazo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, bon, le constat, on l'a dressé, ça grogne, hein, je vous préviens, au 32-16. Hein, les gens, à la fois les locataires, les jeunes, mais aussi leurs parents qui sont appelés en garantie pour eux, sont vraiment mécontents. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour se loger convenablement dans notre pays ?
Le premier sujet, c'est la question foncière. Comment on fait arriver sur le marché les terrains qui sont la propriété ou de l'État ou des collectivités ou des particuliers ?
D'accord. Premier point, voilà. le foncier. Premier libérer point. Du terrain pour construire.
Pour construire, parce qu'aujourd'hui, d'accord. C'est de l'or en barre que les ménages ou les collectivités nationales ou locales conservent. Ça n'est pas normal.
Ensuite.
Deuxième sujet, les normes.
Les normes. Je savais que vous alliez me parler de normes.
6000 normes aujourd'hui pèsent sur un promoteur constructeur.
Et ça n'a rien à voir avec l'Europe, hein. C'est des normes françaises.
Pour la moitié d'entre elles sont communautaires. Mais on peut aussi.
Oui, mais elles reprennent des législations françaises.
Sur l'Europe, hein. Sans être eurosceptique, on peut se dire au contraire qu'on va améliorer l'Europe. Et deuxièmement, il y a des normes françaises. Donc celles-là, on a barre sur elles. Ça, c'est le premier grand domaine. Le deuxième grand domaine, c'est la fiscalité locale, le rôle des collectivités également pour construire, puisque vous savez que c'est un maire qui peut accepter un permis de construire, de délivrer.
Oui, mais Henri, on voit quand même aussi les collectivités locales qui ont un rôle majeur dans la construction du logement social s'en désengager fortement dans les dernières années.
Il faut se demander pourquoi. Moi, ce qui ne me satisfait pas, vous avez évidemment raison, et là encore, vous connaissez votre sujet. Le seul problème, c'est que quand on montre du doigt simplement les collectivités locales en disant c'est scandaleux, la taxe d'habitation, il faut la supprimer. D'accord, hein, moi je suis d'accord, on peut même supprimer tous les impôts. Mais pourquoi les collectivités locales ont-elles compté sur cette taxe et l'ont-elles même augmenté ? Idem pour les droits de mutation, parce qu'il y a des transferts de charges, parce que derrière...
Il y a une diminution des dotations de l'État, etc.
Derrière tout programme immobilier, il va falloir créer des services, parce que les ménages attendent des services, une antenne de police, une crèche, une école. Et donc il faut faire un new deal des relations entre l'État et les collectivités pour le logement.
Henri, on va prendre Léo. C'est Léo 32-16.
Exactement, Léo 32-16.
On vient vers vous.
Tout à l'heure, on a eu pas mal de locataires, ou en tout cas de parents de locataires au téléphone, au 32-16. Et maintenant, on a Léo, donc lui est bailleur.
Et alors, vous êtes propriétaire, c'est la galère, Léo. Bonjour.
Ah bonjour, allô. Oui, non, moi, je ne suis pas spécialement déçu en tant que bailleur. Le seul truc, c'est que j'ai pris un mode de location, en tout cas je propose un mode de location qui n'est pas le logement vide. J'ai fait recours au logement meublé, tout simplement, pour la seule et unique raison, au-delà de la fiscalité qui est peut-être un peu plus intéressante, c'est surtout que c'est des baux qui sont signés pour un an et qui sont par tacite reconduction. C'est-à-dire que si je me retrouve face à un locataire mauvais payeur, au bout d'un an, j'ai une fenêtre pour pouvoir lui dire je récupère mon appartement.
Alors que dans les autres contrats, c'est 3 ans.
C'est 3 ans ou 6 alors ans que, si on a affaire à une SCI non familiale.
Les autres, ce sont des baux de 3 ans.
Dites-nous, 3 ans ou si on a affaire à une SCI non familiale,
c'est 6 ans.
C'est 6 ans. Bon, alors, c'est important à dire.
Voilà. Donc, je veux juste rappeler, c'est Christophe Gonzalves qui est directeur agence Pierre Reims, qui est avec nous en studio.
Voilà, en meublé, ça vous permet tous les 1 an, si vous avez un mauvais payeur, de passer par une procédure qui est lourde et qui pourrait engorger les tribunaux administratifs ou autres tribunaux qui seraient compétents en la matière, vous pouvez dire à la personne de partir parce que vous êtes dans votre plein droit, même en tant que bailleur, ce qui vous permet de prendre un peu moins de risques et de pouvoir reproposer le logement assez rapidement avec moins de frais.
Alors, merci Léo de nous proposer cette solution. Christopher Gonsalves, oui, je rappelle, comme là vient de le faire Rémi, que vous êtes directeur d'agence Orpi à Reims. C'est une solution qui peut, par exemple, plaire à des jeunes ménages, mais une fois qu'on a ses meubles et ses affaires, on va pas aller dans un meublé quand même.
Là, tout ce que je peux retenir, bonjour Léo, l'intervention de Léo, en fait, c'est que effectivement, sur le meublé, il le disait à juste titre, on est dans un contexte juridique complètement différent. Ça veut dire que non seulement la durée des baux est différente, la possibilité en termes de dépôt de garantie est différente aussi, puisque c'est plafonné à un mois dans le cadre de baux classiques, dit classique, en tout cas de logement
meublé.
Deux mois
pour meublé.
Voilà. Et donc voilà. Mais le meublé, comme vous dites aussi, Madame Bachot, c'est que ça représentera toujours qu'une partie, une infime partie des locataires en recherche d'un logement, principalement les étudiants, mais que le problème est bien plus large et que forcément il concerne aussi les logements non meublés, principalement les logements non meublés. Alors s'inspirer directement de ce qui se passe en meublé, je ne sais pas, c'est peut-être une piste, mais en tout cas, qui est un décalage moins flagrant, puisqu'il n'y a pas de raison.
Alors peut-être qu'Henri Buzy Cazot va nous dire, on pourrait imaginer une législation pour le logement, je dirais, ordinaire, le logement vide, qui serait calqué sur le logement meublé, Henri ?
Je n'y crois pas. Je suis exactement de l'avis qui vient d'être exprimé. Je crois qu'il y a deux régimes différents. On a besoin, pour des locataires ordinaires, on va dire, qui ne sont pas par définition nomades, c'est les étudiants, c'est les expatriés, on a besoin d'un parc locatif stable. Cette durée de location, les bailleurs eux-mêmes en ont besoin, de 3 ans, elle a du sens. Alors, qu'après, on veuille plus de flexibilité, on a le droit, mais il faut comprendre aussi qu'on rend un service à la collectivité. En contrepartie, il faudrait d'ailleurs une reconnaissance fiscale majorée, une meilleure faculté de déduire les charges d'exploitation du logement. Moi, je crois plutôt à ça, mais je pense qu'il faut stabiliser le parc locatif et que 3 ans, c'est un minimum vital. Il faut pas précariser le parc locatif vide classique.
Mais justement, si notre auditeur à l'instant nous parlait Léo. De ça, Léo nous parlait de ça, que c'est lui, ça se passe bien. Il est bailleur, il loue des biens et il nous dit, moi, ça se passe plutôt bien parce que j'ai plus de souplesse, parce que moi, si ça se passe mal au bout d'un an, comme c'est un meublé, il peut le faire au bout d'un an, eh bien, je peux dire à mon locataire, merci, au revoir. On sent bien, on en a parlé tout à l'heure, que les propriétaires ont besoin d'être assurés, que c'est trop
oui,
dur. Justement, Henri Buzy Cazot, qu'est-ce qu'il faudrait faire est-ce que c'est pas l'une des premières mesures à prendre si vous étiez ministre du logement? Est-ce que c'est pas l'une des premières? Non, mais j'ai ce sentiment que les propriétaires ont peur de louer, qu'ils voudraient bien louer, tomber, bah, évidemment. Bah quand on est propriétaire.
Déjà, ce discours de psychose, pardonnez-moi, je peux choquer ma communauté professionnelle, mais je ne m'y associe pas. C'est-à-dire que les incidents locatifs, ils sont traumatisants, hein, quand celui qui en connaît un propriétaire bailleur, il n'a plus envie de louer, il diffuse le message autour de lui, mais c'est une infime minorité.
Oui, mais enfin, on vient de nous dire qu'il y avait 160 000 procédures judiciaires.
Ah bah ouais. En
2015, Henri Buzy Cazot.
6,5 millions de logements locatifs privés. Je me permets de relativiser ça. J'ajoute, et vous avez un professionnel également à côté de vous, de la gestion d'une enseigne nationale, que les 2/3 du parc sont autogérés et que ça manque de rigueur. Quand un professionnel gère, je suis désolé, il y a très peu de contentieux locatifs sur les questions de désolvabilisation, le ménage qui ne peut plus payer. Eh bien, on parle avec lui, on fait des plans d'apurement, il y a des garanties loyers impayés, on prend des cautions quand il n'y a pas de garantie. Je pense qu'il y a une professionnalisation de la relation locative qui fait défaut dans ce pays. Les 2/3 du parc locatif ne sont pas gérés comme devrait l'être.
Alors, Léon, vous êtes toujours avec nous, mais...
Il y a Léo, peut-être, qui voulait réagir, et puis après, on va faire réagir
oui,
Christophe.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce monsieur. Hein. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'assure mes loyers, tout simplement, parce que la personne, je sais que tous les 1 an, elle
oui,
peut...
Oui, non, mais Henri Buzy Cazot ne parlait pas spécialement pour le logement meublé.
Non.
Il parlait pour l'ensemble
oui,
du parc locatif.
Christopher Gonsalves, qu'est-ce que vous en pensez? Les bailleurs ont tort d'avoir peur parce que les incidents sont très peu nombreux?
Non, mais comme le dit à juste titre M. Buzy Cazot, c'est qu'effectivement, il ne faut pas non plus sinistraliser le contexte. C'est qu'aujourd'hui, il y a pour une majorité, on a la preuve avec Léo, pour les bailleurs, pour qui ça se passe bien.
Oui.
La problématique, en fait, c'est plus... la peur que ça peut générer chez les autres, ceux qui ne franchiront jamais le pas.
C'est ça, voilà,
il y a 70% des Français qui considèrent que l'offre locative n'est pas assez large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à défaut d'avoir plus de logements sociaux, le bailleur privé pourrait intervenir en véritable offre sur le marché. Mais pour ça, faut-il encore l'inciter? Donc, les incitations, elles doivent être fiscales et en termes de garantie. Pour moi, c'est les deux grands points à régler à court terme. C'est-à-dire offrir plus de garanties aux bailleurs, l'inciter fiscalement.
Donc, on est d'accord.
Voilà. Après, la professionnalisation de la relation entre locataire et propriétaire. Alors, il est vrai que, je le disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut plus de droits pour le propriétaire, mais en lui mettant plus de droits, il faut aussi lui mettre quelques obligations et notamment qu'il puisse pas refuser comme ça de louer à son bon vouloir. Professionnaliser la relation entre locataire et propriétaire par
professionnaliser, c'est-à-dire avoir affaire à un agent immobilier qui va rédiger les baux et qui va
forcément là j'ai l'impression de prêcher pour ma paroisse, mais
il va inciter à l'entretien parce qu'aujourd'hui on a un état du parc locatif privé qui encore une fois pour les deux tiers est autogéré, qui n'est pas satisfaisant. Ouais. Quand vous payez 15 € de loyer du mètre carré ou 18, non, c'est pas une question de paroisse, mais je parle pas de vous, je ne doute pas que votre logement soit en état, mais en moyenne quand vous regardez le parc locatif privé de nos villes, il n'est pas à la mesure des loyers qui sont demandés. Tout simplement. Et donc, l'incitation fiscale peut favoriser ce phénomène de qualification et aussi la gestion professionnelle. Nous sommes un pays où, étonnamment, le parc locatif est en majorité autogéré et je prétends qu'il n'est pas dans la rigueur nécessaire.
Eh bien,
les constats d'état des lieux manquent de rigueur, par exemple.
Merci à Léo, merci Henri Buzicazo, merci aussi Christopher Gonsalves.
Et tout de suite, c'est vous qui faites l'actu avec Rémi Barret.
RMC 100% Bachelot.
Moi, je me suis dit, Rosine n'a pas parlé de ça.
RMC.
C'est un problème, en fait, votre positionnement.
Ça m'a fait réagir.
100% Bachelot.
Rosine n'a pas parlé de ça.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est vous qui faites l'actu.
On n'a pas parlé de ça.
C'est vous qui faites l'actu sur RMC 100% Bachelot. Comme tous les jours, vous nous dites ce qui vous fait réagir dans l'actualité. Vous poussez vos coups de gueule. On les attend au 32-16. Il y a plein de sujets. Manon Bourget est avec moi, comme d'habitude. Bonjour.
Salut,
Manon.
Rémi, bonjour à tous.
Je disais, il y a plein de sujets. On va en parler. Enfin, dans l'actualité, il y a le retour de la police de proximité. Il y a aussi Brigitte Macron qui s'exprime pour la première fois.
Dans Elle. Est-ce que ça vous intéresse au final,
tout simplement.
Brigitte Macron, est-ce qu'il lui faudrait un statut, la première dame? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez évidemment tout nous dire hein, au 32-16, vous n'hésitez pas. Et on commence avec Fabrice, l'entrepreneur qui est dans la Nièvre, et lui il veut revenir sur le paquet neutre.
Bonjour oui. Fabrice.
Bonjour à tous les amis. Oui, je voulais revenir sur le paquet neutre qui pour moi était une erreur. Hein, quand on pensait faire diminuer la consommation de tabac dans ce pays avec le paquet neutre.
Oui, on y revient aujourd'hui, effectivement, Fabrice, parce qu'il y a eu des chiffres, hein, l'administration des douanes qui a publié ces chiffres, et en fait, le paquet neutre, il a été mis en place depuis le 1er janvier, et en fait, depuis le 1er janvier et jusqu'à juillet, les ventes de cigarettes ont bondi de 9,2%.
Oui, mais c'est absolument pas une surprenant. De toute façon, quand on a envie de fumer, on a envie de fumer, quel que soit le paquet, s'il est neutre ou pas neutre.
Vous êtes fumeur vous-même, Fabrice?
Alors non, moi j'ai arrêté de fumer il y a exactement 10 ans. Et je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans. Bon, hormis les questions de santé, évidemment. Mais essentiellement à cause des hausses qu'il y avait eues successives à l'époque du gouvernement de Villepin. C'est-à-dire qu'un beau matin, je me suis dit, ben voilà, je n'ai plus les moyens de fumer. Tout simplement. Et le budget n'est plus possible.
Est-ce que vous vous souvenez à l'époque, vous aviez calculé combien vous dépensiez chaque semaine?
C'était aux alentours des 300 € parce que j'étais un très très gros
par
fumeur.
Mois.
300 € par mois, oui.
Ouais, c'est beaucoup. Hein, ouais.
Et c'était énorme. Et là, je me suis dit, ben 300 € par mois, c'est presque le remboursement d'un crédit d'une voiture, par exemple, tout simplement. Ça commençait à faire des sommes extrêmement importantes. Et là, j'ai dit stop, tout simplement. Et je pense que la meilleure chose pour lutter contre la consommation de tabac dans ce pays, c'est une augmentation significative. Malheureusement, alors on va dire oui, mais c'est un peu un principe d'inégalité entre les riches et les pauvres. Mais je dirais que il faut mieux laisser un cancer du poumon à un riche qu'à un pauvre. Je pense que c'est la meilleure solution.
Et vous avez arrêté du jour au lendemain comme ça? Je vous dis c'est trop cher, j'arrête.
Alors j'ai arrêté du jour au lendemain. Alors je m'étais bien préparé, hein, si vous voulez. J'ai pris des substituts nicotiniques. J'ai été également beaucoup entouré. beaucoup soutenu par mon épouse, parce que c'était une des choses les plus difficiles à faire dans ma vie, je l'avoue, hein, arrêter de fumer du jour au lendemain. Mais il faut tenir bon, il faut se faire aider, il faut beaucoup lire aussi sur le sujet, et on y arrive. Je peux vous dire que 10 ans après, je ne reprendrai pour rien au monde, quoi. C'est tellement un bonheur de ne plus fumer, de ne plus être dépendant de cette cigarette, que c'est impensable de reprendre, tout simplement.
Vous restez avec nous, Fabrice, maintenant.
Oui, parce que Laurent, lui aussi, il a fait le 32-16 et il veut réagir sur le même sujet que vous. Il nous appelle de l'Essonne, Laurent.
Bonjour, Laurent. Oui.
Bonjour Manon, bonjour Rémi. Effectivement, moi je rejoins tout à fait Fabrice sur ce qu'il est en train d'expliquer concernant le paquet neutre, en tout cas, c'est-à-dire que c'est un flop complet. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que c'est pas l'étiquette qu'il y aura sur le paquet qui fera qu'on aura envie de fumer ou pas et qu'on fumera ou pas.
Même question, vous êtes fumeur, Laurent ?
Moi je suis fumeur, oui tout à fait, je suis fumeur, je fume toujours entre 5 et 10 cigarettes par jour actuellement. Vous l'avez peut-être pas dit à l'antenne, j'ai 42 ans, d'un point de vue santé, j'ai pas de problème particulier à signaler, hein, mon médecin ne me tanne pas pour que j'arrête immédiatement. Bien entendu, je ne fais absolument pas la publicité du tabagisme, hein, si on peut s'en passer, bien entendu. Il vaut mieux faire sans qu'avec, hein. C'est comme beaucoup de substances un petit peu nocives que l'on peut ingérer, y compris l'alcool d'ailleurs. Si on peut effectivement donc se passer d'une consommation régulière de ce type de produit, à savoir le tabac, eh bien je le recommande vivement, bien entendu. Mais je n'exclus pas non plus la notion de plaisir dans tout ça aussi.
Justement, Laurent, je voulais vous poser la question très claire. Si jamais, parce que c'est envisagé, le gouvernement envisage, hein, il l'a annoncé, de passer d'ici 2020 le paquet à 10 euros. Et si le paquet passe demain à 10 euros, est-ce que vous continuerez à fumer ?
Écoutez, moi je vois que il y a des cigares aujourd'hui qui sont en vente sur le marché qui coûtent un certain prix. Ils ont toujours coûté un certain prix et ça n'a jamais empêché une certaine catégorie de population de consommer ces cigares. Donc je pense effectivement que la cigarette à 10 euros trouvera un nouveau public. Ça ne sera pas nécessairement le même. Effectivement, le jeune étudiant, etc., comme il a probablement tendance à le faire déjà actuellement, se rabattra peut-être plus sur le tabac roulé ou des choses comme ça.
Ou est-ce qu'il ne se rabattra pas, lui et puis d'autres, sur le marché parallèle ?
Parce que ça,
c'est souvent, souvent pointé du doigt, justement, notamment, et évidemment, c'est leur travail, par les buralistes qui vous disent, oui, vous avez beau mettre le paquet à 10 euros, vous verrez, la consommation ne baissera pas, ou alors elle baissera de manière marginale, parce que ceux qui veulent continuer à fumer, ils iront sur le marché parallèle, ou alors, pour les transfrontaliers, c'est plus simple. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne, non plus. Donc c'est moins cher en Belgique, on le sait, ou en Espagne. Et donc les transfrontaliers vont se fournir là-bas. Et puis il y a le marché parallèle. Est-ce que vraiment cette solution, elle est vraiment viable de passer le paquet à 10 euros ?
Écoutez, moi, si on regarde les statistiques au Royaume-Uni notamment, où effectivement le paquet est un des plus, élevés d'Europe, je crois. Je dirais la conclusion de tout ça revient un petit peu à dire ce que je disais à l'instant, à savoir que la cigarette est consommée peut-être par un autre public, un public peut-être mieux assis financièrement. Comme le disait Fabrice tout à l'heure, effectivement, il y a une question de moyens aussi. Le tabagisme, il faut pouvoir se le financer. Et Fabrice a tout à fait vu juste dans ce qu'il a dit tout à l'heure, je trouve. Mais malgré tout, moi, encore une fois, si vous voulez, je suis à la fois pour, effectivement, une incitation à la non-consommation, bien entendu. Voir les gens se bousiller les uns après les autres par à petit feu n'est pas quelque chose qu'on peut encourager d'un point de vue public. Mais je me méfie aussi beaucoup, à l'inverse, des ayatollahs de la santé publique qui, à longueur de journée, du matin au soir, nous disent, font leur préchi-précha et nous disent, il faut faire ci, il faut pas faire ça, attention à ci, surtout ne pas faire ça, etc. Alors ils nous diront, oui, mais parce que derrière, la santé publique a un coût et tout le monde la paye. Oui, moi autant que les autres. Donc il reste quand même derrière tout ça, si vous voulez, comme de consommer un bon vin une fois de temps en temps, une notion de plaisir.
Oui, la modération.
Et avec modération, voilà. Et je pense qu'en bonne intelligence, tout peut se faire. Voilà.
Merci Laurent de nous avoir appelé au 32-16. Je voudrais juste revenir sur vous, Fabrice. Bon, vous avez, je rappelle, vous avez arrêté de fumer il y a 10 ans et vous êtes pour justement le paquet à 10 euros. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est la solution de faire passer, d'augmenter le prix du tabac?
Et si vous voulez, moi je suis pour toutes les choses qui vont convaincre les personnes d'arrêter de fumer. Mais moi, vous voyez, j'aimerais le dire un mot à nos amis fumeurs, à qui je ne jette pas la pierre, évidemment.
Bon, mais je vous écoute.
Simplement qu'aujourd'hui, ils ont le choix. Ils ont le choix entre arrêter ou continuer de fumer. Eh bien, il faut qu'ils se disent une chose, c'est que peut-être dans 10 ans, 15 ans, ils n'auront plus le choix quand ils seront sur un lit d'hôpital et que leurs proches viendront les voir et qu'ils seront larmoyants. On leur dira, voilà, il vous reste plus qu'une semaine, un mois, 6 mois à vivre. Là, ils n'auront plus le choix. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont encore aux manettes de leur destinée. Il faut qu'ils prennent en conscience que, ben voilà, s'ils continuent, ben, il y a de fortes chances qu'ils aillent au clash, quoi, ouais. Tout simplement.
C'est vrai, Fabrice, c'est de la responsabilité de chacun, effectivement. Merci, voilà. Fabrice, de nous avoir appelé au 32-16 sur RMC. Manon.
Et puis, on change de sujet, on va accueillir Christophe. Christophe, il nous appelle du Var. Il veut revenir, tu sais, sur le sujet des pourboires. Ouais. Peut-être qu'ils vont passer des pourboires obligatoires.
Effectivement, enfin, bon, c'est envisagé. On va en parler avec Christophe. Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour à tous.
Alors, je vais vous faire réagir les pourboires. Je vais juste rappeler qu'il y a eu deux actualités en fait sur la question des pourboires en France. Il y a d'abord eu un sondage qui a été fait par Direct Tour, un sondage qui dit que 96% des Français déclarent que le pourboire est un réflexe de vacances. Donc les Français sont très généreux. Mais il y a ça, c'est les paroles. Et puis dans les actes, il y a l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui dit que les montants des pourboires sont en pleine régression. Et donc l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie dit qu'à envisager, réfléchir, elle aimerait bien rendre obligatoire le pourboire. C'est le Parisien qui le dit ce matin. Le modèle pourrait devenir en fait celui des États-Unis où là-bas l'addition est systématiquement revue à la hausse de 15% pour le service. Alors vous voulez en parler?
Allô?
Oui, on vous écoute, Christophe.
Oui, donc...
J'ai été un peu long, mais je resitue.
Le pourboire obligatoire, je ne suis pas pour. Je pense qu'il faut faire comme on a toujours fait, donner des pourboires aux gens qui le méritent, ouais. Et ne pas en donner aux gens qui ne le méritent pas. Moi, personnellement, je suis professionnel du tourisme, d'accord? Je suis issu d'une famille d'hôteliers-restaurateurs.
D'accord.
Maintenant, je suis juste hôtelier. Donc, le sujet, je le connais un petit peu. Moi, dans la station balnéaire où je travaille... Je ne donnerai pas de nom, mais bon, peu importe. Il y a des...
Bon, vous pouvez, hein. Ça,
dans tous les commerces, il y a des bons et il y a des cons. Voilà. Il y a des méritants. Il y a des gens qui font correctement leur travail, qui accueillent bien les gens, qui sont méritants.
En clair, vous dites qu'un pourboire, ça se mérite.
Voilà, un pourboire, ça se mérite. Après, il y a des gens, ils nous reçoivent comme des chiens dans un jus de quiche. Je suis désolé. Moi, dans mon hôtel, je dis que les gens, je ne dois pas les faire venir. C'est facile de les faire venir. Le plus difficile, c'est de les faire revenir. Il y a une nuance, quand même. Voilà. Et en restauration, parce que c'est plus en restauration, nous, en hôtellerie, on n'est pas confronté au pourboire. Mais en restauration, ils sont confrontés au pourboire, et c'est vrai que moi, je peux comparer par rapport à certains pays étrangers, avec qui je suis allé, notamment en Irlande, ou en Angleterre, on est très très bien reçus, ils se donnent du mal pour vous accueillir le mieux possible. Là, moi, là où je suis, dans certains endroits, on dirait que ça les en kikine, pour être poli, de travailler, quoi, à certains moments. Franchement. Mais il y en a qui sont très bien reçus.
On parle de la restauration, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que en France, dans la restauration, les gens sont plutôt, moi, ce que j'ai entendu, hein, sont plutôt mal payés, travaillent beaucoup, font de très nombreuses heures, sont payés, sont payés 35 heures et travaillent beaucoup plus que ça, et qu'en fait, le pourboire leur permet de finir le mois.
Là, c'est différent, je suis désolé. Maintenant, malheureusement, je dis bien malheureusement, merci Madame Duchemol Aubry, là, vous voyez, on a les 35 heures. Ouais. Celle-là, elle a fait une bêtise,
c'est Martine, son prénom.
Voilà, Martine. Moi, pour moi, c'est pas Martine, mon fils, là, c'est pas grave, peu importe. Quoi qu'il en soit, maintenant, on en est là, on est obligé de se tenir à ça. S'il y a des patrons qui sont inconscients et qui ne se tiennent pas en 35 heures, qui font travailler leurs employés plus que ce qu'il faut, ça, c'est leur responsabilité à eux. Et après, c'est aussi à la responsabilité des employés de ne pas accepter ce genre de choses.
D'accord, Christophe. Oui. Merci. Il y a Nicolas qui veut réagir également sur cette question des pourboires.
Et tu sais d'où il nous appelle?
Non.
De Nice.
Ouais. C'est la plus belle ville du monde. Et on sait, Manon, la niçoise. Bonjour, Nicolas.
Bonjour à tous.
Alors, vous voulez réagir également sur la question des pourboires. Vous êtes dans le métier de la restauration, c'est ça? Vous êtes restaurateur?
Je suis restaurateur.
D'accord. Voilà, donc le pourboire, ça vous concerne, et à Nice, en plus, ville touristique. Alors dites-nous.
Non, non, oui, tout à fait. Non, non, mais effectivement, on est bien d'accord qu'on parle effectivement de un surplus sur l'addition mis à la disposition du client. C'est lui qui choisit, bien évidemment. Mmh. Et moi, cette demande de l'IMI me dérange un peu, notamment par rapport à l'image que ça donne des restaurateurs. On voit le tollé qu'il y a eu lors de la TVA et ce que les restaurateurs ont pris dans la gueule. Et là, on va s'en reprendre encore une parce qu'on a demandé ça. Maintenant, il est quand même très clair qu'il y a quand même moins de pourboires à l'heure actuelle qu'il y en avait il y a 10-15 ans. Et je suis dans le métier depuis 25 ans.
Et vous l'expliquez
comment ? Les Français ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal à donner du pourboire à l'heure actuelle et ça dure depuis maintenant 4-5 ans.
Et vous l'expliquez comment ? C'est quoi ? C'est la crise ? C'est la baisse du pouvoir d'achat ?
Moi, je l'explique exactement par rapport à la crise parce qu'on n'est pas plus, enfin, en tout cas, dans les établissements, on n'est pas moins présent avec la clientèle que ce qu'on était quand j'ai commencé ce métier.
Est-ce que Nicolas, donc, c'est pas juste une habitude qui s'est un peu perdue ? C'est-à-dire que, bon, bah, est-ce qu'on a toujours, avant, on était un pays qui donnait beaucoup de pourboires ? On n'a jamais été un pays hyper...
Très franchement, non, parce que le français, oui, complètement. Enfin, pour moi, en tout cas, le français, oui. Parce que l'étranger, on le voit très bien en ce moment où on a un peu la période haute française, notamment algérienne, c'est que l'étranger, lui, a beaucoup moins de revendications pour pouvoir laisser un pourboire. Mmh. Pour le français, il est beaucoup, beaucoup plus en demande d'une chose parfaite. Il faut que ce soit parfait. Oui. Moi, j'aime à dire qu'il faut, quand j'ai du nouveau personnel qui rentre, j'aime à dire à mes employés qu'il faut absolument draguer le client. C'est une forme de drague, je trouve.
De séduction, on va dire.
Oui, complètement. On est exactement dans cette chose-là. Ceux qui n'ont pas envie, ça va se sentir tout de suite. Et passant un serveur qui donne pas envie à un client, obligatoirement, il va pas donner non plus envie à son patron de pouvoir continuer avec lui. Mais je pense qu'il y a vraiment cette aspect aussi que le français a beaucoup plus de mal à pouvoir lâcher du pourboire en ce moment par rapport aux étrangers qui, eux, sont... Écoutez, on va prendre le service du midi. Voilà. En ce moment, à midi, j'ai eu, on va dire, 20%, 25% de français et 75% d'étrangers. Eh bien, mes serveurs ont fait chacun 40 euros de pourboire. Et on a fait un service de 100 couverts à 3. Voilà, ça donne ça. Donc, vous voyez, ça fait 40 euros par personne. Vous multipliez par 5 jours et je vous laisse compter à la fin du mois combien ça fait. Voilà, on est en pleine période estivale, donc on voit effectivement que c'est pas tout au long de l'année que ça se passe comme ça, mais voilà ce que ça donne.
Bon, on a compris.
En temps normal, en hiver, c'est pas du tout comme ça. On pense plus sur un 15 euros par jour et là, c'est une tête totalement française.
D'accord, compris. Merci Nicolas, en tout cas, de nous avoir appelé au 3216 sur RMC. Manon ?
On termine avec Cédric. Cédric, il a 42 ans, il nous appelle du Val-de-Marne. Et il veut revenir sur Brigitte Macron qui s'exprimait dans Elle aujourd'hui.
Voilà, c'est le magazine. Alors, on a commencé à en avoir. Le magazine, je crois, sort demain, mais effectivement, on a déjà eu.
Il est sorti aujourd'hui.
D'accord. Bon, en tout cas, sur les sites d'information, il y a pas mal d'extraits du magazine. C'est là que vous l'avez vu, peut-être, Cédric, ou vous avez acheté le magazine ?
Non, je l'ai pas spécialement acheté, j'ai vu les bonnes feuilles, puis les affiches, les affiches publicitaires en circulant.
Et alors, vous en pensez quoi?
Moi, ça me dérange pas, je trouve ça plutôt sympathique, en soi. Et je pense pas qu'il y ait une incidence en bien ou en mal, plutôt, il y aura pas d'incidence en bien sur la cote de popularité de son mari. En mal, si elle avait une mauvaise image, oui, mais dans le sens inverse, elle ne tirera pas vers le haut, ça, c'est une évidence. Les Français sont pas dupes. Son interview, si j'ai l'occasion de la lire, je la lirai et je me ferai encore une autre opinion. Mais aujourd'hui, moi, je la trouve plutôt sympathique et elle est vraiment, à mon point de vue, elle est vraiment dissociée de son mari.
Et qu'est-ce que vous pensez de la volonté d'Emmanuel Macron de donner un statut officiel, hein, de première dame, enfin, oui, à sa compagne, de première dame. Alors, ça sera pas une loi, ça sera un texte qui définira exactement ses missions, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut donner un statut à l'épouse, au compagnon ou à la compagne d'un chef d'État ?
Moi, ce que j'aime beaucoup en France, c'est qu'on utilise souvent des termes génériques venus de l'étranger, mais on ne regarde pas dans le corps exactement. Est-ce que la première dame des États-Unis a un statut ? Et quelles sont ses limites ? Et quelles sont ses prérogatives ?
Il n'y a pas de statut officiel nulle part.
Bon, alors, y a-t-il un pays où la première a un statut ?
Moi, j'en vois pas. Hein.
Non, je crois pas. J'avais regardé une fois. Il y a pas de statut officiel dans aucun pays.
Donc je vois pas l'intérêt puisque à moins qu'on veuille encore nous faire une usine à gaz à la française, qui va encore créer des polémiques et encore créer des parfois à l'issue d'un mandat des procès et autres, je vois pas l'intérêt. Maintenant que elle prend à bras le corps certaines causes comme peuvent le faire certaines grandes dames de ce monde, pourquoi pas ? Oui. Mais le problème, c'est qu'on a des médias qui sont... Et je n'inclus pas RMC, mais il y a certains médias qui... Non.
Fait notre autocritique, vous pouvez.
Pas dans ce que je vais dire. Il y a certains médias qui sont un petit peu à faire les poubelles. Je crois pas que RMC...
Non, c'est pas RMC. Poubelles. Je confirme, c'est pas RMC.
Voilà. Donc, à essayer de chercher la petite bête, ouais. De savoir... vous voyez de quel côté mon regard se penche. Ouais. On l'a vu avec l'affaire... Ça a commencé avec l'affaire Fillon. Donc, si vous voulez... ils vont aller chercher des petites... Franchement, je pense que c'est inutile. Laissons-la faire. Elle est bien là où elle est. Je pense qu'elle gère bien l'image, en tous les cas.
Très bien. Compris, Cédric. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 3216 sur RMC. Et je me dépêche parce qu'il y a Jean-François Noël qui me tape. Tu l'as vu, il m'a donné un gros coup dans l'épaule en me disant maintenant c'est intégral foot.
J'étais en train de faire les poubelles il y a deux secondes là. Après, je suis arrivé, je t'ai tapé. Salut les amis.
Ça va, Jeff?
Un peu triste pour moi aujourd'hui.
Bah ouais, parce que Nice a perdu 2-0. On va revenir sur ce match dans quelques instants. Christophe Jallet, l'arrière latéral, sera avec nous dans l'intégral foot avec coach Courbis, évidemment. Puis on va parler également du déplacement délicat ce soir de l'OM du côté de la Slovénie. Donc les barrages de la Ligue Europa, ça sera pas forcément évident. 20h45 la musique, on met l'ambiance dans quelques instants, juste après les infos de 16h, donc l'intégral foot.